Et voilà, c'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi, avec une chercheuse qui veut lire dans notre vision de l'avenir.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, une quotidienne qui cultive son auditoire dans le terreau du Finistère. Vous le savez, souvent le mardi c'est science. L'Université de Bretagne Occidentale est un réservoir quasi inépuisable de sujets proposés par des chercheuses et des chercheurs de tout domaine, des sciences de la vie, des sciences physiques, des sciences humaines et sociales aussi. Et c'est souvent passionnant. Prenez le sujet de notre invitée qui est doctorante en sciences de gestion. Elle se demande dans sa thèse comment nous projetons dans 20-30 ans dans la perspective du changement climatique, des transitions écologiques. Une bonne question. Elle va nous expliquer pourquoi et comment elle a construit son sujet de thèse. C'est Valérie Ginès. Son laboratoire à l'Université de Bretagne Occidentale, c'est le LEGO, Laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest. Bonjour Valérie.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
Ah ben merci d'être venue, vous n'êtes pas loin je crois, c'est l'avantage. Et est-ce que vous pouvez déjà me raconter votre parcours original, ce que vous faisiez avant d'être chercheuse ?
Oui, bien sûr. Donc avant d'être en doctorat, j'ai eu une carrière de plus de 10 ans en tant qu'infirmière. Et donc ensuite j'ai commencé mes études, un master, pour m'orienter autour des métiers de la formation des adultes. Et j'ai basculé dans le monde de la recherche en commençant ma thèse donc, en octobre 2025.
Et donc vous étiez infirmière libérale, hein, c'est ça ?
J'ai été libérale, ouais. J'ai été en structure, j'ai fait un petit peu tout type de structure. Ouais.
Et donc c'était une réorientation, enfin, vraiment au départ, ce que vous visiez. Quoi. D'ailleurs c'était un master de sciences de l'éducation, c'était pas les sciences de gestion, c'est ça ?
Tout à fait. Donc oui, c'était une réorientation professionnelle suite à un constat d'un manque de formation de base sur le terrain. J'ai voulu moi-même me former pour ensuite pouvoir former les futures générations d'infirmières. Donc j'étais en master en sciences de l'éducation et j'ai découvert la recherche. J'ai cherché différents sujets de recherche, de thèse qui pourraient m'intéresser. Et c'est comme ça que je suis arrivée en effet en sciences de gestion.
Et alors moi j'ignorais totalement qu'on pouvait faire ça, se dire tiens, bah allez, je vais faire chercheuse comme ça et répondre à des annonces. En fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ça hein
Ouais. Donc déjà, il faut avoir un master pour pouvoir faire une thèse ensuite. Donc j'ai finalisé mon master en sciences de l'éducation. Parallèlement à ça, j'avais fait un master en recherche pour justement acquérir des compétences dans le domaine. Et en effet, après, c'est postuler à différentes offres, passer des entretiens. Après, il y a un processus de sélection et ça passe ou pas.
Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait pour vous orienter vers la recherche qui n'était pas vraiment votre domaine avant ? Enfin, c'était pas ce à quoi vous rêviez ?
Non, clairement non. Surtout que j'avais des représentations de ce qu'était la recherche, de ce que pouvaient être les chercheurs. Et donc, c'est vraiment quand je suis arrivée dans ce master en sciences de l'éducation que j'ai découvert une autre façon de faire de la recherche, vraiment orientée terrain, avec une volonté de comprendre, ou en tout cas d'apporter des propositions pour répondre à des problématiques de tout un chacun. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, notamment dans les sciences humaines et dans les méthodes que moi, je mobilise maintenant.
Et notamment des problèmes de santé. Enfin, on va voir ça. C'est le fait que vous ayez été infirmière libérale et peut-être pas non plus un hasard. Enfin, par rapport à ce que vous avez. Alors, vous aviez postulé à plusieurs doctorats
Oui, j'avais postulé à peut-être 5-6 offres de thèse sur toute la France parce que j'avais vraiment envie de m'essayer à l'exercice de la thèse. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté sans me mettre de barrière géographique. Et finalement, ça s'est bien fait. J'ai trouvé à côté, donc sur Brest. Donc, c'est très, très bien. Et c'est vraiment le sujet qui m'a accroché en tant qu'individu aussi, quoi. Comme vous dites, donc, j'étais infirmière. Là, on parle de vulnérabilité dans un objectif de politique publique, de prévention publique.
Ouais, c'était quoi l'intitulé du contrat doctoral ? C'est un contrat doctoral,
c'est un contrat doctoral, oui. L'intitulé exact, c'était l'adaptation des 40-60 ans face au changement climatique. Réduire la vulnérabilité par la prévention.
Voilà, donc c'est quand même assez clair. Parce que c'est vrai que les sujets de thèse, c'est pas toujours très, très clair parfois. Là, on comprend quand même de quoi il s'agit. Et ce laboratoire LEGO, c'est un laboratoire, donc je l'ai dit, économie, gestion de l'Ouest. Bon, ça paraît presque décalé comme sujet. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, donc dans les sciences de gestion, il y a plusieurs, ce qu'on pourrait dire, sous-disciplines. Donc il peut y avoir donc, l'économie, la gestion, et après dans la gestion, marketing, ressources humaines, etc. Donc moi, du coup, je m'inscris dans ce qui pourrait être du marketing, plus précisément dans du marketing social, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques qui sont a priori autour du marketing, mais dans une optique de prévention santé publique.
D'influer sur les comportements, en fait.
Voilà. Et donc, précisément, moi, je m'inscris dans l'analyse du comportement du consommateur. Consommateur, bon, c'est un mot qu'on utilisait
usager.
Surtout avant. Maintenant, on peut peut-être dire citoyen, usager, consommateur. Enfin, voilà.
Ouais, d'accord.
Ça évolue okay. aussi, quoi.
Oui, bien sûr, j'imagine. Parce que le marketing social, c'est assez récent comme discipline. Enfin, moi, je n'ai aucune idée là, sur la question.
Non, c'est vraiment après une vision et une sous-discipline, on va dire.
Et par exemple, ce qu'on appelle les nudges, là, les fameuses techniques pour inciter justement à faire changer les comportements, ça peut en faire partie, en fait, c'est ça.
Ça peut être des techniques mobilisées dans certaines recherches ou autres pour voilà, voir, soit on veut analyser, lire le comportement ou le modifier directement, mais oui, c'est un petit peu en lien, ça peut être en lien.
Et alors, qui avait conçu le sujet de thèse, comment et pourquoi ?
Donc du coup, donc comme vous l'avez dit, je suis au laboratoire Lego à l'UBO sous la direction de Samuel Guillemot. Et c'est une thèse qui est cofinancée par la région Bretagne. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans notre discipline, comme dans toutes les disciplines en sciences de gestion, il y a des congrès annuels par discipline. Donc là, il y a le congrès de l'AFM, donc l'Association française de marketing. Et donc c'est au cours d'un de ces congrès, d'un groupe de travail, que des chercheurs, dont mon directeur de thèse, ont commencé à discuter des différentes problématiques. Et en fait, ils se sont rendus compte assez rapidement que ce soit dans la littérature académique ou dans les politiques publiques, que la question du vieillissement et des transitions écologiques étaient traitées, mais jamais ensemble, en fait.
Ah oui.
Voilà. Et du coup, c'est comme ça, en discutant entre pairs, qu'ils se sont dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'aller dans ce sens. Et donc, il y a eu une demande d'allocation doctorale en recherche, donc auprès de la région Bretagne, qui a été faite, avec mon directeur de thèse qui a rédigé une proposition, donc avec ce sujet-là. Et donc, il a obtenu la bourse. Et donc, voilà, moi, j'ai postulé pour un sujet qui était déjà, en tout cas, une orientation qui était prédéterminée. Et après, c'est avec la personne que je suis, ce que je peux recueillir sur le terrain, etc., que ça va prendre une certaine direction.
Ouais, c'est ça. On a une idée quand même au départ de ce que va être cette thèse, mais c'est quand même vous qui construisez votre thèse.
C'est ça.
Et vous savez pourquoi vous avez été choisie ? Enfin, qu'est-ce qui a plu ?
Il m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de candidats. C'est vrai que je crois qu'il y avait eu 32 candidats.
Donc bah, c'est très intéressant hein, comme voilà. sujet. Ouais.
C'est pas mal. Et donc, je pense que comme vous l'avez dit, j'ai peut-être un profil un peu atypique. Ancienne professionnelle du soin, qui se réoriente en sciences de l'éducation,
Vous avez travaillé avec des personnes âgées d'ailleurs,
oui.
notamment.
Quoi, oui, principalement en EHPAD et puis même en libéral. Bon, c'est quand même beaucoup de personnes âgées. Donc là, c'est un petit peu la différence dans mon sujet, c'est que je travaille mon terrain d'enquête, en tout cas les populations que j'enquête, ce sont les actuels 40-60 ans.
C'est ça.
Donc ils ne sont pas âgés, mais je travaille sur comment elles se perçoivent quand elles le seront, donc quand elles auront entre 60 et 80 ans, quoi.
Alors, comment vous avez construit plus en détail votre thèse ?
Donc, du coup, ça part vraiment de comme j'ai dit, de la vision que j'ai de la recherche. Donc, il y a un sujet de base avec un projet de ce que sera la thèse. Et après, il y a qui je suis, moi. Donc, moi, j'aime bien avoir plutôt une approche compréhensive des phénomènes. Je ne suis pas là pour mesurer ou vérifier quelque chose. Je suis là pour essayer de comprendre un phénomène. Et de là, tirer des fils et voir qu'est-ce qu'on pourrait concevoir en termes de connaissances, puisque l'objectif de la recherche, c'est quand même de créer de la connaissance, mais aussi donc, d'apporter des contributions dites managériales, c'est-à-dire faire des propositions après pour que les politiques publiques mettent en place des actions. Donc du coup, comme je suis dans une approche compréhensive, je fais plutôt des entretiens dits qualitatifs.
Vous êtes comme une sociologue, en fait, même si vous n'avez pas la casquette officielle de sociologue, quoi.
C'est ça. Souvent, les personnes nous comparent à des sociologues. Oui, on peut faire de l'ethnographie, de l'analyse de terrain, soit en participant, soit en étant en retrait. Donc oui, les sciences de gestion, c'est une discipline qui est pas toute jeune, mais c'est quand même une discipline qui est plus jeune par rapport à d'autres. Et donc les autres, par exemple la sociologie, etc., ce sont des disciplines dites mères. Et donc on s'inspire quand même de tout ce qui est fait au préalable dans les sciences humaines pour...
Les sciences de gestion dérivent plus de la sociologie que de l'économie, finalement, peu des deux.
Ça dépend où on se positionne et quelle posture on va adopter derrière.
Et puis ça dépend peut-être des laboratoires aussi. J'imagine.
Ouais. Aussi, c'est vrai aussi.
Puis à Brest, on a une grande tradition aussi d'ethnologie, etc. Donc, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire concrètement dans votre thèse, ce qui va durer 3 ans? Donc là, ça a commencé quand officiellement?
En octobre 2025.
Ok, d'accord.
Donc, on est à 6 mois, 6-7 mois. Par là. Okay.
Qu'est-ce que vous avez défini comme méthodologie d'enquête ?
Donc, petit à petit, nous, on a décidé de s'orienter sur les imaginaires. C'est-à-dire que je travaille sur les projections des personnes qui ont actuellement 40 à 60 ans, quand elles seront donc âgées. C'est quelque chose qui est assez difficile, surtout à long terme. Se projeter à 20 ans, c'est pas évident. Donc du coup, on travaille sur les imaginaires, puisque... quand on ne met pas trop de cadre, c'est peut-être plus facile d'imaginer des choses. Et donc, je fais 3 modes de recueil dans ma thèse. C'est-à-dire que je vais faire de l'observation d'abord, comme je l'ai dit. Donc, je vais observer des groupes pour voir s'il y a des groupes qui se rassemblent autour de problématiques, de transition, etc.
Donc, déjà sensibiliser à la question du changement climatique.
C'est ça. Et donc là, l'objectif pour moi, c'est de voir s'il y a des motivations ou des émotions particulières qui sont plus prégnantes que d'autres. Dans le groupe, voilà. C'est parce que souvent, voilà, il se trouve qu'en groupe, entre pairs, il y a une espèce de liberté, ou en tout cas, ce qui ressort, c'est que les gens se sentent soutenus, des fois dans leur environnement personnel, ils ne peuvent pas forcément s'exprimer, que là, ils sont vraiment entre personnes qui ont conscience des mêmes problématiques, et donc il y a une certaine liberté de la parole.
Ah oui, qui partagent les mêmes angoisses éventuellement, etc. Oui.
C'est ça. Possible.
Vous avez commencé à en faire déjà, ces observations de groupe?
Oui, ça, j'ai commencé à en faire dans plusieurs types de groupes. À chaque fois, je précise, ça dépend du format, mais en général, je précise mon sujet de recherche quand même pour avoir l'accord des gens sur ce que je vais observer. Ou alors, si c'est des grands groupes, je prends simplement des notes sur ce qui se dit et en tout cas les types de réactions qui peuvent ressortir. Donc ça, c'est un premier volet de recueil. Ensuite, je mène des entretiens semi-directifs auprès d'élus, donc vraiment sur toute la région Bretagne.
Et toutes sortes d'élus, j'imagine, toutes les échelles, quoi.
Toutes sortes d'élus, voilà, que ce soit des conseillers municipaux, des adjoints, des maires ou des conseillers régionaux, départementaux, enfin voilà, ça peut être à tout niveau. L'idée, c'est de voir, donc j'aborde pas la question sous le même angle, en fait, en fonction des publics auxquels je m'adresse. Donc là, j'ai vraiment une grille de questions et ça suit son fil et après, je vois ce qui ressort. Et ensuite, le troisième mode de recueil, qui est un petit peu au cœur, en tout cas, de tout ce process, ce sont des entretiens de projection. Donc là, j'adopte des méthodes d'art autour du collage.
Mais oui, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas évident de se projeter dans 20 ans. Donc, donc vous faites découper les gens, non? Comment ça se passe?
C'est ça, clairement. J'ai tout un stock de magazines, livres exprès autour du collage. Alors, il a fallu faire un choix déjà dans cette sélection-là pour pas moi-même introduire de biais.
Mais oui, c'est ça, pas évident. Hein.
Voilà, j'ai vraiment toutes sortes de livres et de magazines. Donc, je mets tout ça sur la table et les gens, je les invite à se projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc là, d'essayer de matérialiser ce qu'ils peuvent avoir dans l'esprit. Donc, il y a plein de méthodes différentes. Il y en a qui ont déjà une vision précise. Il y en a qui feuillettent, qui se laissent guider au fur et à mesure. Et donc, après, c'est pas moi qui analyse leur production. Ça, c'est une autre sorte de méthode. Moi, je pars du principe que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre leur point de vue à eux ou elles. Donc, ils m'expliquent pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi cette image, la façon dont ils ont construit, collé. Est-ce qu'il y a une signification ou autre?
Ça sert de base de discussion.
Tout à fait. C'est un support.
Comme un photolangage aussi.
C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, après, j'analyserai tout ça.
Et oui, et donc cette méthode-là que vous pratiquez avec, à base de collage, c'est quelque chose que vous connaissiez, que vous avez inventé ? Enfin, comment ça s'est déjà pratiqué ou...
Alors non, je n'ai pas inventé. Ce sont des... Justement, surtout quand on est en qualitatif, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit des méthodes qui soient déjà scientifiquement validées. Donc, c'est des choses qui sont utilisées, pas forcément en sciences de gestion, mais en tout cas dans d'autres disciplines. Donc voilà, avec une méthodologie précisée, des limites, des avantages à prendre en considération après pour l'analyse. Et donc j'ai fait, quand on fait de la recherche, on doit faire une revue de littérature, donc ça peut être sur les concepts qu'on va mobiliser ou bien sur la méthode. Donc moi j'ai essayé de voir tout ce qui existait comme technique projective pour essayer de faire verbaliser des imaginaires. Et donc petit à petit on est arrivé à ce protocole-là de recherche.
Parce que votre sujet de thèse sur se projeter dans 20 ans par rapport au changement climatique, ça n'a pas été fait. Enfin, en gros, vous êtes là un peu la première à faire ça.
Ah oui, après, il y a plein... ça dépend comment on se positionne sur la question. Donc déjà, comme j'ai dit au début, croiser le vieillissement, la temporalité et les transitions écologiques, ça n'a pas été trop étudié. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui commencent à se faire, mais... moi justement l'objectif de ma thèse serait de proposer une méthode pour stimuler les imaginaires et voir si cette stimulation d'imaginaire peut permettre ou pas un changement de comportement ou une adaptation éventuelle à un futur incertain. C'est là qu'est toute la subtilité du truc. On est sur une situation, sur une époque où on ne peut pas se fier à ce qu'ont fait nos aînés ou à ce qui s'est passé avant. Donc on doit recréer un futur.
En fait, c'est toujours vrai, je suppose, quoi. Mais oui, là, on a encore plus le sentiment, en tout cas, d'incertitude. Et des méthodes, sinon, de projection, alors qu'ils ne soient pas forcément liées au changement climatique, ça existe. Enfin, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, la projection. Ah, ouais. Dans quel domaine, par exemple ?
En psychologie du travail, je sais, en ergonomie, par exemple, ou dans plein d'autres choses, pour voir si une méthode, un produit va être accepté ou pas.
Ah oui.
On fait des projections, mais en général, à si long terme, à 20 ans, c'est pas fait, c'est très rare.
Ouais, 20 ans, voire 30 ans, d'ailleurs, vous ne fixez pas vraiment de limite si...
Je dis 20 ans, comme l'objectif, c'est que moi, j'interviewe des personnes qui ont entre 40 et 60 ans.
Oui, il faut encore qu'ils soient vivants, quoi, c'est sûr.
Il faut qu'elles aient entre 60 et 80, quoi. Ouais, et l'objectif, c'est de cette génération-là, 40-60 ans, c'est des personnes qui vont être actives, donc qui ont peut-être un pouvoir d'agir.
Maintenant, en tout
cas. Maintenant, ouais. Voilà. Et après, reste à savoir si la capacité à se projeter est là ou pas.
Et ce public dans 20 ans, 60, 80 ans, ça sera un public de... ça sera même sans doute une majorité de la population, non ? Si on fait des projections démographiques. Parce qu'il y a aussi une composante démographique hein, dans vos recherches, c'est ça ?
C'est ça, en fait. Donc, c'est deux choses qui viennent se lier. C'est les projections climatiques. Donc, en Bretagne, par exemple, plus 2,9 degrés de moyenne. Des journées dites très chaudes, comme celles qu'on a pu vivre la semaine dernière, multipliées par 6 sur l'année, entre autres, avec plein d'autres choses. Et parallèlement à ça, une démographie qui bouge pas mal, avec une augmentation de la population d'environ plus de 157 000 habitants. Donc ça, c'est des données qui sont issues de l'INSEE.
En Bretagne ?
En Bretagne et de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne.
Et plus vieille.
Et un doublement des personnes de plus de 85 ans.
Ah, carrément de plus de 85 ans.
Voilà.
Ah ouais.
Donc ça, c'est ce qui est prévu à ce jour, sans tenir compte d'éventuelles migrations climatiques ou autres, pour dans 20 ans, à l'horizon 2050. Donc, à partir, ça, c'est vraiment ma base. Et à partir de ça, comment on fait aujourd'hui pour agir pour demain, en fait.
Oui, comme on fait aujourd'hui. Et vous abordez aussi des thèmes alors, qui peuvent paraître connexes, mais en fait, qui ne sont pas, je crois, sur, par exemple, l'intelligence artificielle.
Alors, c'est assez libre, en fait, ensuite, dans les projections des gens. C'est-à-dire que, comme je leur demande de se projeter, on va avoir toutes sortes de projections. Il y a des gens qui vont se projeter sur eux-mêmes, donc ils vont s'imaginer plus âgés, avec... sans prendre en compte forcément l'environnement, etc. Et il y a par exemple des gens qui vont se projeter sur les technologies. Donc l'IA, c'est sûr, qui prend une place assez importante depuis 2022 maintenant. Et donc, ça peut être aussi au cœur de certaines préoccupations. Les robots, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent venir en fonction des personnes.
Ouais, d'accord, c'est pas vous qui... Enfin, de toute façon, comme vous dites, c'est semi-directif. Donc, enfin, c'est même pas du tout directif, en fait.
Non,
c'est très original comme méthode. Enfin, moi, je connaissais pas, j'avoue, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vous recrutez, hein, d'ailleurs, tant qu'on en parle, on lance un appel. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement comme profil de personne ?
Voilà, donc je recherche des participantes sur toute la région Bretagne, donc des personnes qui ont entre 40 et 60 ans, bon, à 2-3 ans près ça peut être envisageable. Donc voilà, c'est tout. Ce serait vraiment principalement ça.
Pas de préconisation de métier, de catégorie socio-professionnelle.
Toute catégorie socio-professionnelle, tout lieu de vie, que ce soit rural, littoral, urbain. Justement, la diversité, c'est bien aussi, puisque les représentations et les préoccupations varient en fonction du lieu de vie.
Donc, avec ou sans enfants aussi ?
Avec ou sans enfants. S'il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont entre 40 et 60 ans, je veux bien qu'elles contactent la radio. Parce que voilà, moi, c'est vrai que c'est un public que j'ai peut-être moi dans mon échantillon. Mais,
ça serait bien que vous ayez autant d'hommes que de femmes ou on ne vous l'a pas spécialement demandé
Non, c'est déjà le cas assez. Là, pour l'instant, j'ai pratiquement maintenant pas loin d'une vingtaine de répondants, répondantes. Mais c'est assez mixte dans tous les domaines, donc ce n'est pas une prérogative en tout cas. Vraiment, l'âge, c'est le point essentiel, et vivant en Bretagne.
Et pas forcément en activité, parce qu'on parlait de population active, mais en fait, on peut être femme au foyer, par exemple.
Tout à fait.
Ouais, d'accord. Et donc, il faut, bon, ces personnes, en fait, vont, si elles veulent bien répondre, on mettra vos coordonnées sur le site internet, mais il faut qu'elles s'attendent à passer au moins une heure avec vous, c'est ça ?
Oui, alors ça varie, les entretiens, si je devais dire une moyenne, je dirais 2 heures, parce que voilà, ça va entre 1 heure et ça peut durer 3 heures en fonction de ce que la personne à dire, emmène, le temps qu'elle met à faire son collage. Enfin voilà, processus peut... Il n'y a pas de durée de temps, quoi.
Oui, vous ne fixez pas de limite. Et donc, c'est vous qui venez chez les personnes.
Tout à fait. Je me déplace avec mes magazines, mes livres, mes ciseaux, colle, papier. Et voilà.
Ouais. Et donc, pour l'instant, vous avez commencé à emmener quelques-uns de ces entretiens ?
Oui. J'ai commencé depuis, je crois... mi-avril, je pense. Alors, c'est vrai qu'avec un mois de mai plein de ponts, ça a été plus compliqué.
J'imagine.
Mais j'ai déjà pas mal de répondants. Je vous dis, je vais être pas autour d'une vingtaine de personnes déjà maintenant.
Et vos impressions, juste alors vite fait, là, c'est pas des résultats scientifiques, mais qu'est-ce qui se dégage pour l'instant ?
Pour l'instant, ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que, comme j'ai dit, il y a plusieurs dimensions dans la projection. Et j'ai pas encore l'impression qu'il y ait... une vision multidimensionnelle, justement. C'est soit on se projette sur l'environnement, sur ce que sera le lieu de vie, soit sur éventuellement ce qu'on saura soi-même, mais c'est quand même plus difficile. C'est comme s'il y avait une forme de pudeur ou de déni à vouloir se voir vieillir.
Ben, c'est ça,
même,
hein. C'est
assez compliqué.
C'est pas facile, ouais.
Ouais. Et après, deux types de personnes, si je devrais vraiment catégoriser très simplement, mais des personnes qui sont conscientes des changements climatiques à venir et qui les prennent en considération dans leurs projections, et d'autres qui vont les occulter complètement, quoi. Mais bon, l'analyse n'est pas encore faite, donc, et je vais croiser toutes les différentes données.
Oui, c'est ça. Et les élus avec qui vous êtes entretenus, qu'est-ce que ça donne pour l'instant ?
Bah, c'est le constat initial qui avait été fait, qui avait d'un côté la prise en compte du vieillissement de la population et de l'autre de la transition. C'est quelque chose qui, pour l'instant, semble ressortir en fonction des équipes. C'est là où c'est un petit peu...
Le lien entre les deux n'est pas forcément fait, c'est ça que vous voulez dire ?
Ouais, lien n'est pas forcément fait. Et alors, je n'ai pas détaillé, je recrute pas les gens, en tout cas, je sollicite pas les élus en fonction de leur couleur politique,
oui,
par exemple.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais peut-être que ça peut, si après coup, je regardais s'il y avait une couleur politique et dans laquelle ils s'inscrivaient, on voit qu'il y a des préoccupations qui peuvent être différentes. En fonction, ou des fois une globalité. C'est vraiment très, très aléatoire.
En fait. Et vous n'avez pas fini, c'est pareil, les élus, vous allez continuer à les interviewer.
Oui, oui, j'en ai encore aujourd'hui, par exemple, j'en ai d'autres à venir. C'est vrai que j'ai commencé les demandes auprès des élus autour des périodes électorales, donc c'était assez compliqué, il y avait une forme de réticence aussi à vouloir communiquer. Maintenant, les équipes commencent à se mettre en place, donc les gens commencent à revenir vers moi, mais ça va se faire tranquillement.
Oui, de toute façon, la partie entretien et observation des groupes, ça va durer pas pendant les 3 ans, parce qu'il y aura bien une partie où vous devrez rédiger votre thèse.
Oui, oui. Bah, surtout que là, la région Bretagne, ça va être, en tout cas pour la première méthode, puisqu'on ne sait pas encore comment va évoluer la thèse, en fonction des résultats que j'aurai là, il y aura une seconde étude qui sera lancée, etc. En tout cas, pour cette méthodologie-là sur la Bretagne, le recueil de données se fera environ jusqu'au 13 juillet.
Donc ça va venir vite.
Ça va venir vite. Après, l'idée est que je mène donc soit le même type de méthode, soit ça évoluera en Martinique.
Et pourquoi en Martinique?
Alors, pour comparer, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer plusieurs territoires. Mm-hmm. Donc, Martinique, c'est toujours la France. Mais comme la Bretagne, la Martinique ont un territoire assez spécifique.
Un peu littoral aussi, voilà.
Voilà, avec un grand trait de côte, ouais. Avec une culture assez présente qui peut ou pas influencer les représentations. En tout cas, il y a des modes de vie qui sont ancrés depuis plusieurs décennies et ça peut jouer ou pas. Ouais. Sur les projections. Donc voilà, ça peut peut-être être intéressant de comparer ces deux territoires-là.
Bon, bah Valérie Ginès, de toute façon, on va vous suivre, hein, puisque vous avez encore un peu de temps à passer avec ce sujet qui est vraiment passionnant, donc vous reviendrez quand vous aurez plus à avancer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, et on mettra bien sûr toutes les informations sur le site internet de Transistor.